Actes chapitre 5, verset 1er. Nous méditerons donc ce matin sur les 11 premiers versets, c'est-à-dire l'épisode de tragique de la mort d'Ananias et de Saphira dans l'église. Lisons ce récit. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Voilà quelque chose de très important. Cet événement paraît, a priori, nous reporter un peu au jour de l'ancienne alliance, de l'alliance traitée par Dieu avec le peuple, par Moïse, l'alliance fondée sur la loi. Mais c'est là l'Église. Nous sommes après la Pentecôte, l'Église est en marche, et c'est bien en son temps que se produit ce tragique événement. Nous avons vu hier, nous avons médité sur les versets 32 à 37, c'est-à-dire sur cette belle union qu'offrait l'Église unique de Jérusalem et sur cette grâce qui reposait sur tous. Nous avons vu que, en effet, tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient pour en apporter le prix aux pieds des apôtres, afin que l'on fasse des distributions à tous. Et en définitive, un exemple nous est donné, celui de Barnabas, qui vend un champ, l'apporte et apporte l'argent aux pieds des apôtres. Et ici, c'est un brusque passage, donc, de ce tableau de vie et d'amour, un tableau d'hypocrisie et de mort. Et nous pouvons tout de suite découvrir là une première application de la parabole prononcée par le Seigneur Jésus en Matthieu 13, la parabole de l'ivraie. Et je vous rappelle notamment ceci, lorsque l'herbe, c'est-à-dire le blé, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. L'herbe, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. dès que l'herbe eut poussé, l'ivraie parut aussi. Et c'est ce qui se passe ici. Voici l'ivraie. Seulement, c'est Dieu qui va l'ôter, là. Cette première apparition de l'ivraie, Dieu ne va pas la laisser. La persécution n'est pas pour l'Église le danger le plus redoutable. Celui qui l'est redoutable, c'est le danger que constitue l'insinuation intérieure du mal à l'intérieur de l'Église. L'attachement aux richesses est souvent un commencement, peut-être un commencement, mais il est enveloppé du levain empoisonné de l'hypocrisie. Nous lirons dans Luc au chapitre 12, le verset premier, chapitre 12 de Luc. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Voici deux personnages sur lesquels jusque-là nous ne savions rien. Ananias, Saphira, vous savez qu'en hébreu, les noms ont une signification. Ananias, on peut le traduire de différentes manières. On peut le traduire, par exemple, le gracier. On peut le traduire aussi par un nom qui s'est répandu et qui est usité actuellement encore, comme nom propre d'ailleurs, Dieudonné. Dieudonné. Ou si vous voulez, ça vient de Dieu a donné, Yahvé a donné. Et puis Saphira signifie la belle. L'Église des signes et des miracles, Église de l'amour, impressionne ces deux personnages et les attire. Ils sont attirés, ce qui n'a rien d'extraordinaire, au contraire. L'Église attire. Il faut qu'elle attire, mais elle n'attire pas toujours que des âmes droites. Des cœurs honnêtes et bons, comme a dit le Seigneur, elle peut en attirer d'autres. La cause de cette Église toute primitive est magnifique. C'est déjà le royaume des cieux, c'est déjà l'avant-goût du règne de Dieu. La sainteté, en effet, rayonne. Retenons bien ceci que nous avons trouvé dans notre étude précédente. Une grande grâce reposait sur eux tous. Et j'ai dit que le texte grec nous montrait bien qu'il s'agissait d'une grâce de Dieu. Une grande grâce reposait sur eux tous. J'y reviendrai tout à l'heure sur cette grâce. C'était donc l'Église vraiment de la grâce. Ce n'était pas l'Église de la loi. La loi n'était pas nécessaire. La loi reste un témoignage de la volonté de Dieu. Mais ce n'était pas elle qui agissait, c'était la grâce. Et la grâce donnait à cette Église la puissance de l'amour et le revêtement de Jésus-Christ, le revêtement de la sainteté. Ananias et Saphira ont donc été attirés. Et ils sont entrés dans l'Église. Ils en étaient déjà membres. Cela résulte de notre texte, parce que s'ils n'avaient pas été membres, ils n'auraient pas pu être accusés de mentir au Saint-Esprit. L'on ment au Saint-Esprit lorsque l'on a été visité par le Saint-Esprit et changé par lui. Par conséquent, ils sont membres de l'Église. Ils voient ce que vient de faire le fils d'exhortation, Barnabas, et une idée, une pensée est venue en ce cœur. Ananias ne veut pas paraître resté en arrière, mais au contraire, il veut être vu dans la même action de générosité fraternelle que Barnabas. Et alors il va, à moindre frais, jouer l'œuvre de l'amour fraternel. Je dis bien jouer, non pas réaliser l'amour fraternel, mais jouer apparemment le jeu de l'amour fraternel. Il va s'ingénier à simuler l'amour, à tromper l'Église et par conséquent le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Ananias est donc coupable d'une hypocrisie bien calculée, et calculée avec même le concours de son épouse, et cela est introduit, cette hypocrisie est introduite au milieu de l'Église, mère de Jérusalem. Je le disais hier, c'est le ver qui s'introduit dans le fruit et qui va corrompre le fruit, corrompre sa semence. Il ressemble tout de suite à un personnage d'une autre parabole du Seigneur Jésus, celle des noces, la parabole des noces, qui se trouve dans Matthieu 22, verset, je ne lis pas toute la parabole, vous savez, cette parabole commence par « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, et il envoie appeler des invités. » Puis, en définitive, lorsque la salle des noces se remplit, au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà un homme qui vient dans le royaume sans être revêtu de cette justice qui s'obtient par la foi seulement, ce revêtement de la justice de Jésus-Christ. Et il en est foudroyé. Ananias, lui, s'approche donc en impur du lieu de la sainteté. Lui, il rentre aussi dans la salle des noces, il rentre dans cette église qui est les prémices du royaume de Dieu, il entre en impur, il entre sans être revêtu de l'habit de noces, c'est-à-dire de la robe des justices, comme dit littéralement le livre d'Ésaïe, la robe des justices. Il s'approche de la sainteté de Dieu que revêt cette Église, une grande grâce les recouvrait, reposait sur eux tous. Il s'approche de la sainteté de Dieu et il en est foudroyé. En impur qu'il est. Nous nous rappelons un peu, et il est bon de faire, bien sûr, de ces rapprochements, toujours avec d'autres passages de l'Écriture, et nous nous rappelons l'expérience du prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe, c'est un prophète qui nous réjouit, enfin, tout nous réjouit dans l'Écriture, bien sûr, mais ce prophète qui a prophétisé pendant au moins 60 ans de sa vie, nous a laissé des choses merveilleuses. Alors, au chapitre 6 du livre d'Ésaïe, nous voyons que le prophète a une vision et il voit le Seigneur qui est assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissant le temple. Et puis, il y avait là des séraphins, ce qui veut dire, d'après la racine du mot hébreu, les brûlants. Il y avait des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». 3 fois saint. La Trinité est déjà là. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, cela a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Mais réalisons, n'est-ce pas, l'effroi du prophète qui se trouve devant le Seigneur. Et c'est la sainteté du Seigneur qui est là devant lui et qui le fait trembler. C'est quelque chose de redoutable, mes amis, que la sainteté de Dieu. Il faudrait que nous le sachions. C'est redoutable. La sainteté de Dieu est redoutable. Et c'est pourquoi, maintenant, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas, si quelqu'un... vous savez ce qui a été dit à Moïse. Personne ne peut voir Dieu et vivre et conserver la vie. Seule la sainteté de Dieu est quelque chose de redoutable. Et pourtant, nous sommes appelés à cette sainteté. Et l'Église de Jérusalem revêtait déjà cette sainteté. Elle était là. Par la grâce, je dis bien par la grâce, non pas que ces hommes et ces femmes aient une vertu particulière qu'il faille aujourd'hui mettre en valeur, non pas, mais par la grâce qui reposait sur eux tous. Ils étaient un cœur et une âme. Mes amis, ces termes sont forts. Il faut que nous nous représentions cela. La sainteté de Dieu était là, le Christ était glorifié, et il y avait là un petit peuple, un petit troupeau, sur lequel était la sainteté de Dieu. Et Ananias s'approche de cette sainteté en impur, il en est foudroyé. Dans l'Église, pourquoi aujourd'hui pouvons-nous être en désaccord avec le Saint-Esprit? Je n'ose pas dire mentir au Saint-Esprit. Je n'ose pas dire cela pour nous. Si vous le sentez dans votre conscience, repentez-vous vite. Mais je dis que souvent, nous nous mettons en désaccord avec le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit. N'est-ce pas quelque chose, tout de même, qui s'approche du mensonge au Saint-Esprit? Nous attristons, c'est le texte lui-même, le texte biblique qui nous le dit, nous attristons le Saint-Esprit. Nous sommes en désaccord avec la sainteté de Dieu, et cela sans être foudroyés. Nous ne sommes pas foudroyés. Ça pose une question, vous savez. On peut dire, bien sûr, que depuis ce moment-là, l'Église s'est multipliée sur la face de la terre et que le Seigneur use plus largement de sa patience. Et puis si jamais une Église est vraiment compromise, il y en a d'autres qui pourront réparer la brèche. Si par exemple, je suppose, dans une ville quelconque de notre France, une église sombre, supposons, eh bien, cela d'ailleurs s'est vu, mais venant d'ailleurs, le message de l'Évangile viendra triompher à nouveau dans ce lieu et reconstruire le témoignage du Seigneur, parce que l'église est ailleurs et partout. C'est une raison. Mais... mes amis, je dis bien, nous attristons le Saint-Esprit et nous sommes en désaccord avec la sainteté de Dieu sur bien des points, dans bien des attitudes, et nous ne sommes pas foudroyés. Les chrétiens de Jérusalem étaient revêtus, nous dit le livre, étaient revêtus de la force d'en haut, parce qu'ils étaient revêtus de Jésus-Christ. La grâce s'étendait sur eux tous. Ils étaient revêtus de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul lui-même, poussé par le Saint-Esprit, nous le dit. Soyez revêtus de Jésus-Christ. Soyez revêtus. Ils étaient revêtus, eux. Et c'est pourquoi la force d'en haut était sur eux. Et cette force rendait cette Église puissante. C'est pourquoi j'aime bien l'appeler l'Église des signes et des miracles et l'Église de l'amour. Mais cette force qui rendait l'Église de Jérusalem puissante était terrible pour ceux qui, comme Ananias et Saphira, prétendaient y introduire le levain de l'hypocrisie. Ah, c'était quelque chose de redoutable et de terrible. Mais mes amis, si nous voulons maintenant que l'Église soit digne de son maître, si nous voulons que l'Église soit le lieu de la sanctification, le lieu de la louange à Dieu, le lieu du témoignage de l'amour du Seigneur et de la sainteté de Dieu, alors, mes amis, il faut que nous sachions que dans cette Église, dans une telle Église, on ne pourra pas tolérer le méchant, et que le Saint-Esprit le dénoncera lui-même. Ôtez le méchant du milieu de vous, dira Paul. Ôtez-le, comment pouvez-vous supporter au milieu de vous le méchant? Le méchant est quelque chose qui détruit le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage de Dieu. Et, chers amis, cela nous amène à une réflexion pratique pour nous-mêmes. Ne soyons pas ce méchant dans l'Église, mais participons à la sainteté de tous. Mais nous aussi ayons notre revêtement, comme nos frères et nos sœurs, partageons le même revêtement de Jésus-Christ et de grâce. Oh, chers amis, il faut que maintenant nous entendions cela. Nous sommes à tout près de la venue du Seigneur. Cela ne tardera pas. Cela ne peut pas tarder, même au calendrier de la terre maintenant, en évaluation terrestre. Cela ne peut pas tarder. Et il faut que c'est l'Église de cette dernière génération soit irrépréhensible, pure et sans tache. Il faut qu'elle le soit maintenant. Il y a nécessité d'un témoignage comme le premier, comme celui de l'Église de Jérusalem. Il y a nécessité d'un tel témoignage maintenant sur la terre. Et le diable s'efforce de pénétrer, au contraire, dans les cœurs, dans l'Église, à la faveur du modernisme. Eh bien, il ne faut pas, il faut absolument réagir contre cela. Et comment l'hypocrisie peut-elle réapparaître dans un cœur qui a été lavé par le sang rédempteur? C'est ça encore un problème. Comment l'hypocrisie peut-elle réapparaître? Eh bien, le cœur qui a été lavé par le sang rédempteur doit se tenir pur. L'apôtre Paul dit à Timothée, conserve-toi pur, veille sur ton âme. Veille sur toi, veille sur toi. Et l'apôtre Paul dira aussi aux anciens d'Éphèse, veillez sur vous-même, veillez sur vous-même. Pour veiller sur l'Église, il faut que vous veillez sur vous-même. Mais quand quelqu'un dans l'Église regarde à lui-même et est à la recherche d'une opinion flatteuse chez les autres, il cesse de regarder au Seigneur ressuscité, tandis que dans l'Église Jérusalem, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et alors, tous les membres de cette Église regardaient au ressuscité. Et si l'on cesse de regarder, au Seigneur ressuscité, alors la grâce disparaît, comme la Shekinah autrefois, la nuée pouvait disparaître, quitter le peuple. La Shekinah, la grâce de Dieu s'en va. Devenu incapable du témoignage chrétien et de l'œuvre chrétienne, celui-là qui recherche une opinion flatteuse, devenu, je dis bien, capable de l'œuvre chrétienne, alors il a recours aux apparences. Il se donne des apparences, celles de la foi, de l'amour, de la ferveur, et il tombe dans l'hypocrisie. Voilà comment un chrétien qui a pourtant été purifié et régénéré peut tomber dans l'hypocrisie. S'il cesse de regarder à Jésus et regarde autour de lui. Comme l'apôtre Pierre, qui marchant sur les eaux, cesse lui de regarder au Seigneur Jésus qui lui a dit « Viens » et il regarde les flots, il regarde le ciel, les nuages, le mouvement des nuées dans le ciel, et il évalue cela car il sait le faire. Il navigue depuis longtemps sur ce lac et il regarde à tout cela, il prend peur, la foi s'interrompt, et il s'enfonce dans les eaux. Or, Jésus enjoint à ses disciples de se bien garder de deux choses. Premièrement, se garder de servir deux maîtres à la fois, de servir mammon. Et secondement, de se garder du levain des pharisiens. Nous l'avons lu tout à l'heure, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Avant toute chose, dit le Seigneur, gardez-vous, attention, c'est quelque chose de dangereux, de très dangereux, c'est un élément de mort, gardez-vous de cela. Il faut donc se garder, se complaire en soi-même, faire agir ses propres efforts pour se donner quelque apparence de piété ou de sainteté est une chose dangereuse. Rappelons-nous que nous ne pouvons rien par nous-mêmes et que seule la grâce de Dieu nous maintient dans la vie authentique. Nous sommes dans le temps de la grâce, mes amis. Prenons bien garde. Il nous faut la sainteté. Soyez saints comme Dieu est saint. Parce que Dieu est saint, telle est votre raison, soyez saint. Eh bien, ça, c'est un commandement. Il le faut, mais par le moyen de la grâce. Et c'est pourquoi il faut que la grâce repose sur nous, repose sur l'Église, sur tous les membres de l'Église. Vous savez que l'apôtre Paul termine presque toutes ses épîtres par ceci, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ou même par une mention trinitaire, comme à la fin de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 13, où l'apôtre écrit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Parce que c'est ça l'essentiel. S'il termine, si c'est son point d'orgue, ça, c'est que c'est la chose indispensable. Rien ne sera fait conformément aux instructions qu'il a pu donner dans ses diverses épîtres si la grâce du Seigneur Jésus n'est pas là. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous, sans exception. Voilà l'Église. Il n'y a pas d'Église autrement. Et attention au bavardage qui s'écarte de cela. La justification par les œuvres et les mérites. Vous savez que cette justification a été combattue et bien sûr nous l'avons rejetée. Nous ne la mettons pas toujours en question, bien, c'est vrai, mais nous l'avons rejetée. Nous l'avons rejetée parce qu'elle est une hérésie épouvantable. Et cette justification par les mérites ou les œuvres a été introduite dans l'Église, dans le christianisme, disons, au cours des siècles, et elle a été la source des plus épouvantables hypocrisies. Elle a fait un mal, cette hérésie-là, incalculable. C'est d'elle que viennent des choses comme l'Inquisition, les bûchers pour tous ceux qui ne voulaient pas partager cette hypocrisie, tous ceux qui voulaient être droits, qui voulaient être purs devant Dieu, ils étaient l'objet de cette Inquisition et victimes des bûchers. Mais pour d'autres, tous ceux qui avaient place dans l'Église, hypocrites, alors pour cela, c'était l'honneur, la grandeur. Ils consentaient à jouer l'hypocrisie de la fausse piété. Ananias et Saphira sont des initiateurs. Ils s'en sont pris au fruit merveilleux de la rédemption. Ils sont les vases de la colère de Dieu. Et il nous donne le récit qui nous est fait de cette circonstance, nous donne une leçon que voici. La justice dont l'homme veut se parer lui-même au prix de l'hypocrisie, parce qu'il n'a pas en lui la force de la vraie piété, il veut se parer de l'hypocrisie, alors il se donne une justice lui-même, et bien cette justice débouche dans la mort éternelle. Il n'y a pas à tergiverser, c'est ça la réalité. Au verset 3, nous lisons ceci. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Dans l'Église des signes et des miracles, le Saint-Esprit assure une telle présence que spontanément, vous le voyez, il peut parler par la bouche de l'un ou l'autre des membres de l'Église, de quelqu'un qui a ministère, mais il pourrait parler aussi par toute bouche dans l'Église. Et ici, c'est l'apôtre Pierre qui est la voix de l'Esprit, et nous voyons que cet apôtre est divinement averti. Il n'enquête pas, il ne cherche pas à amener un aveu de la part d'Ananias, il affirme. L'accusation est là, indiscutable. C'est l'Esprit lui-même qui l'apporte, cette accusation. Et Ananias, par son calcul intéressé, a fait entrer Satan dans son cœur. C'est ce que Pierre dit. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Cela n'était point fatal. Cela pouvait être évité. Tu avais un moyen d'éviter que Satan ne vienne remplir ton cœur et te conduire à l'hypocrisie. D'ailleurs, dans sa première épître, ce même apôtre Pierre, au chapitre 5 et au verset 8, nous dit ceci, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Résister au diable, cela peut occasionner des souffrances. Cela peut occasionner des souffrances déjà intérieures. L'Épître aux Hébreux nous parle bien d'une lutte contre le péché, lutte jusqu'au sang, c'est-à-dire vraiment par des souffrances. Il faut une résistance, non pas obtenue d'un caractère qui se veut fort, mais d'une résistance obtenue dans la plus grande humilité, obtenue de la grâce de Dieu. Il faut chercher la grâce de Dieu. Nous en revenons toujours à ça, mais attention, nous devons avoir à notre disposition une foi capable de cette résistance. Mentir au Saint-Esprit et mentir à Dieu, voilà ce que les expressions que Pierre emploie, et cela montre bien que le Saint-Esprit est une personne et qu'il est une personne divine. Au verset 4, « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. » La faute d'Ananias n'est que dans le mensonge. Il pouvait conserver le prix de son champ. Il pouvait même ne pas le vendre, et personne n'aurait pu le lui reprocher. Il en était libre. Vous voyez, il y avait dans cette église liberté. Ce n'est pas une contrainte. Il ne devait même pas être l'objet du jugement des autres. Il pouvait, lui, si son cœur n'était pas prêt, il conservait son champ, ou il en conservait le prix. Là, il n'y aurait pas eu de faute, il aurait pu rester dans l'église, continuer de vivre. Peut-être que plus tard, son cœur aurait eu d'autres dispositions. Mais vous voyez comme le Seigneur ne nous demande pas de forcer les dispositions de notre cœur. Si nous faisons quelque chose, il faut que ce soit par le cœur. S'il y a une libéralité, elle doit venir du cœur et non pas être contrainte, forcée. Et personne ne doit juger. Personne. Attention à cela, nous n'avons pas à juger. Il y a liberté dans l'Église, il faut qu'il y ait liberté pour que la grâce puisse agir sur tous et conduire chacun des membres dans la voie où il peut marcher. Il y en a qui sont en avance, d'autres qui sont peut-être en arrière. L'essentiel est que tous marchent dans la bonne voie. Mais bien entendu, ce qui avait poussé Ananias, c'est qu'il ne voulait pas se priver d'un geste spectaculaire de générosité, d'amour fraternel. Il voulait faire comme Barnabas, et c'est cela qui l'a perdu. Il aurait fallu, si son cœur n'était pas prêt à cette générosité, il aurait fallu qu'il accepte humblement que d'autres soient généreux à la vue de tous, lui ne l'étant pas. Mais il n'y avait pas, à ce moment-là, de faute de sa part. Dans les versets, ensuite 5 et 6, « Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira une grande crainte, saisit tous les auditeurs, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. » Les paroles de Pierre n'amènent aucune réplique d'Ananias. Voyons un peu comment les choses ont pu se passer. Ananias, entendant ces paroles, tomba. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous savez, tout le monde était saisi, il y avait une crainte. Il y eut là peut-être quelques secondes de silence, car là, la parole de Pierre était sévère. Tu as menti à Dieu. La crainte saisissait tout le monde, et tout à coup, un corps tombe lourdement par terre. Ananias est là par terre. Il expire. On comprend, chers amis, qu'une grande crainte pût saisir même tous ceux qui pourtant avaient un cœur pleinement ouvert à la grâce de Dieu. On comprend qu'il y ait eu là une grande crainte. Représentez-vous si cela se passait au milieu de nous, n'est-ce pas? Oui, mais il faut penser à cela. La Bible nous est donnée pour une méditation. Il ne faut pas seulement prendre connaissance du fait historique, il faut méditer. Si ça se passait aujourd'hui, mais ça pourrait se passer. L'Esprit retira à cet homme le souffle de vie. Dieu est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Puis, nous avons dans les versets suivants la mort de Saphira. Lorsque elle arrive, Pierre lui adresse la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Il est certain que Pierre est toujours guidé par le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même. Parlant de lui-même, là, il y aurait eu peut-être une sorte de piège, une sorte de parole d'enquêteur, mais ce n'est pas Pierre qui parle librement, c'est le Saint-Esprit qui lui donne cette parole, et cette parole est une porte de salut qui est encore ouverte à Saphira. C'est encore une porte de salut. Si Saphira s'était laissée saisir à ce moment-là par le Saint-Esprit, elle aurait pu baisser la tête et puis dire « Non, c'est pas à ce prix-là. Nous l'avons vendu plus cher. » Voilà. Et sa vie eût été sauvée, bien entendu. Mais faute de dire la vérité, elle aussi se rend coupable du péché de son mari. D'ailleurs, les deux époux s'étaient mis d'accord. Et l'hypocrisie était déjà résolue dans le cœur de l'un et dans le cœur de l'autre. Elle aussi tombe à terre, frappée de mort. Dans cette double mort, n'avons-nous pas déjà une apparition de cette grande proclamation du Seigneur Jésus-Christ? Écoutez bien, cette proclamation, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Vous me direz, mais cela n'est-ce pas pour la fin? Non! C'est pour toute la carrière de l'Église. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Pas toujours avec la sanction de mort immédiate, mais le Saint-Esprit convainc. Et chers amis, dans nos églises, il faudrait que le Saint-Esprit fût libre de convaincre. S'il ne convainc pas, toujours, nous semble-t-il, c'est que vraiment, l'Église est en mauvaise voie, en mauvais état général. Et le Saint-Esprit n'est plus libre dans l'Église. Mais si le Saint-Esprit est libre, il convainc de péché. Et nous n'allons pas faire pousser cette étude particulière maintenant, mais dans d'autres passages, nous voyons que le péché est porté à la lumière et doit être mis à la lumière, doit être révélé. D'ailleurs, il l'est, chers amis, quand il le faut. Nous avons eu ici, dans le cadre de notre retraite qui a commencé en 68, nous avons eu des incidents, bien sûr. Et il y a eu des cas, peu nombreux, merci Seigneur, il y a eu des cas, peu nombreux, mais enfin, il y a eu des cas de péché. Et ce péché a été connu. Je me souviens d'un certain péché commis par quelqu'un, le Seigneur m'en avait averti. J'avais un poids. Et j'avais, sans savoir exactement ce que c'était, j'avais déjà dit à la personne, je l'avais dit à la personne. Et puis la personne s'était dérobée. Mais peu de temps s'écoula. Et la personne vint vers moi. Me dire, monsieur, je ne peux plus supporter. Voilà ce que j'ai fait. Le Saint-Esprit dans l'Église doit révéler le péché, chers amis. Il faut que nous ayons une telle Église. Ah, si nous avons une Église où le Saint-Esprit ne peut plus révéler le péché, où les cœurs sont incapables d'entendre cette révélation, où il ne se passe plus rien, c'est une Église de forme. Ce n'est pas la véritable Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église des signes et des miracles, l'Église de l'amour, ôtez le méchant du milieu de vous. On ne peut pas conserver quelque chose, un élément qui contamine au milieu d'une église où règne la sainteté de Dieu. Et il faut que nous ayons de telles églises. Il le faut. Une grande crainte. Évidemment, le verset 11 nous dit qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses, parce que la nouvelle s'étendit au dehors, et tous ceux qui dirent cela, qui apprirent cela, Ananias et Saphira ont été l'un après l'autre couchés à terre, frappés d'une mort immédiate. C'est certain, c'était quelque chose de très saisissant. Mais nous verrons demain, nous verrons dans la suite que cette grande crainte a été elle-même un facteur de puissance. Mes amis, c'est dans la sainteté, je le répète, que sera la force d'en haut, la force de Dieu. Et si véritablement nous nous livrons à la sainteté de Dieu, comme dit Pierre, soyez saints parce que je suis saint. Si nous nous livrons à la sainteté, l'Église doit s'offrir constamment à la sainteté, alors nous aurons la force d'en haut. Et cette force s'étendra au dehors, une crainte s'emparera des gens qui verront l'Église. N'oublions pas qu'autrefois, le peuple d'Israël, dans l'intention de Dieu, devait être cela. Il fallait que les peuples d'alentour se disent, regardez ce peuple sage et intelligent, regardez-le. Et cela devait saisir les peuples, et cela devait travailler à leur transformation aussi. Ça, c'est le bien de Dieu, n'est-ce pas? Le bien de Dieu ne peut pas se faire en dehors de la sainteté. Comment Pierre lui-même est-il devenu l'apôtre, le pécheur d'hommes, lorsque, ayant vu la pêche miraculeuse, ayant vu la puissance de Dieu apparaître, il a vu en même temps la sainteté du Seigneur, et il s'est écroulé à ses pieds, « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur !» Et le Seigneur l'a relevé en lui disant, « Pierre, tu seras désormais pécheur d'homme, pécheur. » Il faut cela, chers amis, il le faut à l'Église. Autrement, je vous le dis, il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. L'Église n'est qu'une Église de forme. Nous avons des formes, nous conservons des formes, des habitudes, si nous n'avons pas vraiment la sainteté, le revêtement de Jésus, et si la grâce de Dieu ne plane pas au-dessus de nous tous. Vous savez que dans l'histoire biblique, nous avons aussi des personnes qui sont mortes. Vous me direz, ça c'était sous l'empire de la loi de Moïse, on n'était pas encore dans le temps de la grâce. Quoique, vous savez, on ne connaît pas bien, en réalité, notre Ancien Testament. C'est malheureux, on ne le connaît pas suffisamment, et souvent on dit des choses qui sont un peu catégoriques et qui ne sont pas vraies. En réalité, on était sous la loi, c'est vrai. C'est une dispensation qu'il faut toujours pouvoir comparer avec la dispensation de la grâce. Mais la grâce n'était pas absente des époques d'Israël, de la vie du peuple d'Israël. La grâce n'était pas absente. Et Dieu voulait déjà faire agir sa grâce. Nous en avons plus d'un exemple. Mais il y a eu, bien sûr, des gens foudroyés, comme, je l'ai rappelé l'autre jour, Nadab et Abihu, les deux fils aînés d'Aaron, et qui moururent pour avoir apporté du feu étranger devant l'Éternel. Et puis, il y eut cette mort qui même impressionna d'une façon extraordinaire le roi David, la mort d'Uzza. Uzza était là, et alors il voit l'arche de l'Éternel que l'on transportait, il la voit penchée, parce qu'on l'avait mise sur un char. Oh, on avait pris un char tout neuf. On l'avait mise sur un char tiré par des bœufs, mais les chemins étaient plus ou moins bons, et l'arche penchait dangereusement, alors pour qu'elle ne glisse pas et ne risque pas de tomber, Usa étend sa main pour retenir l'arche. Immédiatement, il est foudroyé. Et David ressent en lui un certain mouvement de colère, un petit peu une indisposition même contre Dieu. Il n'est pas content de cela, mais il va réfléchir, ce roi. Vous savez que David fut un homme vraiment remarquable sur le plan spirituel. Et David va réfléchir, et il va se dire, oui, j'ai transporté l'arche, je l'ai fait transporter sur un char. Et la faute est la mienne. J'aurais dû faire transporter l'arche par les Lévites qui sont chargés de cet office. Et il aurait fallu la porter par le moyen des barres, comme cela est prescrit dans la loi. Et quand la seconde fois il va faire transporter l'arche, il prendra des Lévites et non pas un char. On ne change pas les dispositions de Dieu, voyez-vous. Et là, il y avait eu une atteinte à la souveraineté et à la sainteté de Dieu, Usa a été foudroyé. Et maintenant, c'est Ananias et Saphira qui meurent pour avoir voulu introduire dans le corps de Christ le levain de la cupidité et de l'hypocrisie. Ce levain, si Dieu avait laissé Ananias et Saphira, ce levain se fût développé et eût compromis l'Église. La semence qu'était ce beau fruit, lorsque celui-ci aurait été ouvert par la persécution et aurait projeté ses morceaux alentour, alors la semence aurait été déjà compromise, atteinte, le levain de l'hypocrisie aurait été transporté avec l'Évangile dans les autres lieux où devaient se fonder des églises. Quel beau départ! Mais Dieu a veillé à son héritage, et il n'a pas permis que le levain de l'hypocrisie puisse contaminer les autres églises. Il ne faut pas oublier que dans l'Épître aux Hébreux, il nous est rappelé que notre Dieu est aussi un feu dévorant ou un feu consumant. En somme, Ananias et Saphira font dans l'Église naissante l'Église qui est les prémices du royaume de Dieu. Ils font ce que Adam et Ève firent en Éden. Eux aussi livrèrent leur cœur à Satan et pensèrent conserver le bonheur du paradis terrestre sous la seule apparence de la sainteté. Mais leur âme mourut là. Et, en somme, nous avons ici une analogie à faire avec Ananias et Saphira. Eh bien, chers amis, pensons à ces choses. Vous voyez qu'il y a dans ce récit pour nous une forte, deux fortes et puissantes leçons qu'il nous faut retenir. Il faut, chers amis, que nous reprenions la vision de l'Église, irrépréhensible, pure et sans tache. La chose est possible. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur n'eût jamais prononcé de telles paroles si elles avaient été impraticables. Nous devons avoir cette vision. Il faut que cette vision soit en nous. Or, actuellement, que se passe-t-il? C'est que de mauvais messages viennent altérer la vision et inciter le chrétien à une liberté charnelle. Résistons contre cela, résistons contre le diable et contre tout cela, et ayons au contraire, saisissons-nous d'une vision que nous allons emprunter au Saint-Livre et au Saint-Esprit de Dieu, la vision de l'Église pure, irrépréhensible, sans tache, sur laquelle il y a ce revêtement de la grâce, une grande grâce, qu'une grande grâce soit sur nos Églises. Mes amis, désirons-le et demandons-le. Amen.